ouverture à tout, autant à la communauté d'accueil qu'aux immigrants. Ma présentation, je trouve qu'elle nous a mis les yeux sur le phénomène que dans les journaux, Twitter, toutes ces choses-là, c'est tellement limité et on ne voit pas la personne humaine dans le processus d'immigration. Alors, vous, merci.
Merci,
merci Michel. Qu'est-ce que tu penses de la polémique qu'il y a présentement sur la question de la langue parlée à la maison?
Ben écoute, pour avoir travaillé justement sur ces questions-là, hein, entre autres avec Corbeil, qui était avant à Statistique Canada, qui est maintenant à l'Université Laval, sur ces questions-là, c'est pas un bon indicateur. La langue parlée à la maison n'est pas un bon indicateur. Parce que vous avez des familles qui parlent très bien français, d'ailleurs, mais qui vont parler leur langue maternelle à la maison et... Je dirais que c'est, quand je vous disais tout à l'heure, ça fait pas obstacle, au contraire, les familles qui parlent la langue maternelle à la maison vont être des familles beaucoup plus ouvertes au français. Parce qu'il y a quelque chose de leur racine, de leur identité, quelque chose qui est important. On a tous besoin de garder des choses de nos racines, de nos identités. La langue, c'est un élément important. On le voit d'ailleurs avec les personnes autochtones, là en ce moment, celles qui ont perdu leur langue, c'est dramatique, hein. Donc, les langues parlées à la maison, c'est une façon de conserver cette identité-là, mais qui n'est absolument pas en opposition avec le fait d'apprendre le français ou de parler le français à l'extérieur de la maison, dans le travail, de mettre vie avec les collègues, avec les voisins, avec les amis. C'est vraiment deux choses qui ne sont pas en opposition, mais qu'on a beaucoup trop polarisées. Alors, par contre, ce qui est important, c'est de mesurer tous les... On mesure la langue parlée au travail, on mesure la langue parlée dans le public, on mesure la langue parlée à la naissance, c'est-à-dire quelle était la langue maternelle, on mesure la première langue officielle parlée aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on a parlé au début l'anglais ou le français en arrivant. Tout ça, c'est un ensemble d'éléments dont il faut tenir compte. Mais on ne doit surtout pas dire « Ah, la langue parlée à la maison, c'est ça qui fait que ce ne sont pas des francophones, ce sont des gens qui ne vont pas s'intégrer. » C'est entièrement faux, et je dirais même que c'est le contraire.
Gilbert.
Oui, vous avez parlé de ce fameux passage du statut temporaire au statut permanent, mm-hmm. Moi, c'est un beau problème. Mm-hmm. J'ai ma bruit qui est iranienne, et puis j'ai ce problème longtemps. Quels sont les obstacles du côté du gouvernement et qu'est-ce qui se passe du côté du gouvernement, du côté de la population? Où sont les obstacles? Comment expliquer ça?
Ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement canadien voulait favoriser ça. Donc le fédéral voulait favoriser ce passage-là depuis les années 2015 à peu près. Bon, après ça, il y a des choses administratives. Là, on sait la procédure est quand même très longue et compliquée, mais ils avaient commencé à mettre en place des choses. Et quand le gouvernement de la CAQ est arrivé en 2019, ils ont mis un moratoire sur cette voie de passage-là. Donc depuis 2019, il y a quelques uns qui arrivent, mais c'est rendu beaucoup plus difficile. Et en même temps, le gouvernement fédéral qui voulait favoriser ça, tous les problèmes, vous savez, il y a eu des problèmes administratifs majeurs, les durées de traitement des dossiers sont rallongées pour la résidence permanente. Si bien que là, il y a le double obstacle maintenant, la durée de traitement par le fédéral et le fait qu'au Québec, on a mis un moratoire. Donc les gens qui ont un diplôme, par exemple, au Québec et qui veulent obtenir leur résidence permanente, pour le moment, ils tombent dans le moratoire. Ils ne peuvent pas encore la demander.
Pourquoi c'est le moratoire?
Personne n'a compris parce que tous les organismes ont dit que c'était la seule voie qui marchait bien, ça marchait super bien, ça donnait des immigrants bien intégrés déjà. Alors, c'est au moment où on a dit « Ah, faut faire baisser le seuil d'immigration », donc ça semble que c'est à ce moment-là. Mais ça, il n'y a pas de raison effective, c'était pour dire bon, « on ne veut pas que tout le monde devienne résident permanent ». C'est un peu très comme ça, là, c'est une idée qui est sortie, mais c'est dommage, c'est que depuis 2019, il y a quelques-uns qui arrivent à passer, mais le moratoire est toujours là, c'est-à-dire la voie n'a pas été réouverte. Alors que dans d'autres provinces canadiennes, elle fonctionne avec les délais longs, là, administratifs, mais elle fonctionne. Alors ce qui fait qu'il y a des gens qui vont partir, des gens qui sont diplômés d'ici, qui sont
diplômés.
C'est un problème majeur. Et je vous dis, tous les organismes autour de l'immigration disent qu'ils il n'y a rien de politique, il n'y a rien de rationnel. Au contraire, c'est une personne déjà intégrée là qu'on empêche d'avoir la résidence permanente.
C'est sur le français.
Oui.
Moi, j'ai l'important de distinguer la situation à Montréal.
Oui.
Où vit voir la moitié de la population du Québec, ou pas? Non, peut-être pas sur l'île.
Oui, oui.
Oui, le fait de parler à la maison, donc le français parlé à la maison et le français parlé sur la place publique. Mm-hmm. Ici à Sherbrooke, je veux dire, ils vont toujours parler sur à peu près s'ils sont intégrés, les gens, dans le français. Mais à Montréal, par exemple, beaucoup vont répondre qu'ils connaissent, donc une bonne connaissance, mettons, du français, mais que ce n'est pas la parole, la langue parlée à la maison, qui souvent va être l'anglais.
Non, la langue parlée à la maison, c'est la première langue parlée à la maison, c'est la langue maternelle. Okay. Quand on regarde les immigrants.
Oui, la langue maternelle.
Ben oui, mais quand on regarde les immigrants, c'est la langue
maternelle.
Ah ben oui.
OK.
Oui. Mais c'est ça, en
fait. La langue parlée à la maison et la langue sur la place publique.
Oui.
Alors, le problème, c'est à long terme. Qui va favoriser à long terme l'utilisation, la progression du français parmi les descendants, si ce n'est ceux qui ont la langue maternelle français à la maison? Ceux qui ont la langue maternelle, le français.
Par exemple, des musulmans à Montréal, les Italiens qui parlent français à Montréal, Italiens, ils parlent toujours l'italien à la maison. Puis je veux dire, c'est des plusieurs générations.
C'est pas négatif.
Mais non, ce que je veux dire, c'est vraiment une question importante, c'est que il ne faut pas prendre les immigrants en otage dans cette question-là. La question du français, elle ne doit pas reposer sur les immigrants. Elle repose sur plein d'autres facteurs. Par exemple, Montréal est une réalité différente des régions, etc. Même si tous les immigrants parlent français à la maison, ça ne changerait pas grand-chose sur la langue qu'on parle dans le public ou au travail à Montréal. Parce que ce n'est pas eux qui portent la langue.
Mais en même temps, si on n'aide pas les migrants racisés, parce que la masse critique ne veut pas, c'est à Montréal. Et ayant vécu comme président de Montréal, c'est comme, on parle anglais, les immigrants, même dans la culture flag à Maisonneuve aussi, il y avait des immigrants dans les boutiques ou les commerces, il y avait des commerces, ils ne parlaient pas français.
Oui, mais ceci dit, la question de la langue, à mon avis, est vraiment beaucoup plus large que la question de l'immigration. Et un des problèmes qu'on a avec nos gouvernements actuels, pas juste au Québec, au Canada, mais c'est qu'on met les deux ensemble et on ne devrait vraiment pas mettre les deux ensemble. Mais vous avez tout à fait raison. Il faut les cours de français, il faut franciser les gens, il faut que les gens aient accès aux cours de français, que ce soit possible, que ce soit... Et tant mieux, parce que c'est ça qui va faire la vitalité et leur participation à la vie sociale, etc. Mais vraiment, même quand on regarde les chiffres de près, on se rend compte que, je ne parlerai pas de déclin du français, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce terme-là, mais les problèmes autour du français au Québec, ça ne tient vraiment pas aux quelques immigrants qui sont là et qui parlent l'anglais. Et surtout pas qu'ils parlent leur langue maternelle à la maison, ça n'a rien à voir. Hein. Ils peuvent parler l'espagnol à la maison et le français en dehors, etc.
Alors le dîner étant servi à midi, je vais nous permettre deux questions courtes pour les personnes qui ont levé la main, avec des réponses
courtes. Oui,
parce que sinon, on n'aurait même pas le temps de prendre une pause avant de vous asseoir.
Oui.
Une question de longueur. Le chien de référence est très intégré, très conçu, et ça va jusqu'à la mise en application.
Oui.
Quand je vois la mise en application, là, je vois les jeunes qui attendent des résultats avec des ressources limitées. Alors, comment est-ce qu'on va arriver à prioriser, à mettre en dessous cet ensemble, des choses qui vont passer d'abord, parce que d'une part, ça résumerait des problèmes, mais d'autre part, ça serait vendable.
Ouais.
Ça serait convaincre les gens de mettre leurs choses pour ça.
Oui.
En deuxième question, tout d'abord, c'est où est le chef d'orchestre dans tout ça?
Mais c'est ça. Souvent, les chefs d'orchestre manquent. Bon, on a actuellement le ministère de l'Immigration qui dit qu'il veut de la régionalisation. Mais il y a, par exemple, si on prend juste Sherbrooke, il y a, je ne sais pas combien, il y a au moins 5 organismes qui s'occupent de régionalisation de l'immigration, qui sont plus ou moins financés tous par le ministère de l'Immigration, qui sont en concurrence. Au lieu de travailler ensemble, qui sont en concurrence. On a, par exemple, le service d'aide aux Canadiens qui lui s'occupe des réfugiés, qui est financé aussi par le ministère de l'Immigration. On a plein d'autres organismes qui accueillent les gens, nous, le RIF, nous, on fait plus avec la défense des droits et tout ça, mais en fait, il n'y a pas de concertation, et vous avez raison, il manque quelque chose qui permettrait de dire, ben voilà, on est ensemble et on peut travailler ensemble, et voilà vers où on va, c'est quoi nos objectifs et comment on peut les atteindre. Dans les priorités, souvent, ça va être des priorités qui sont choisies par l'un ou l'autre organisme, ou qui vont être imposées par le ministère de l'Immigration, mais qui n'a pas forcément la connaissance pointue aussi locale. La municipalité à Sherbrooke veut se donner un petit peu des outils, mais il n'y a pas de sous. Pour ça, il y a très très peu d'argent. L'argent vient du ministère de l'Immigration.
Une petite dernière. Moi, j'ai particulièrement aimé votre cadre conceptuel qui m'inspire beaucoup. Puis justement, le chef d'orchestre, il est aussi dans la municipalité.
Absolument.
Puis on devrait travailler pour ça parce que la volonté, elle est là.
Oui.
Les moyens d'action sont très limités.
C'est ça.
Ce que je voulais souligner aussi parmi tous les organismes, tous les partenaires que vous avez mentionnés, il y en a un qui est vraiment important, puis ça serait facile à corriger, c'est de travailler sur les médias.
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de citoyens de Sherbrooke qui connaissent la différence entre un immigrant économique et des réfugiés. Il n'y a personne qui connaît la Convention internationale qui a été signée des Nations Unies, qui ne sait pas que c'est le Canada s'est engagé à prendre une certaine proportion de réfugiés qui sont obligés de répartir les provinces. Les gens sont complètement ignorants de ces questions, ils mettent tout le monde dans le même paquet.
Absolument.
Et ça ne favorise vraiment pas le.
Ah oui, ça aide pas du tout, vous avez tout à fait raison.
Alors les médias, ça serait relativement facile si on les sensibilisait.
Oui.
Ils n'ont qu'à changer un peu leur discours, puis faire des nuances un peu plus.
C'est vrai. Il y a eu, à un moment donné, ils essayaient de sortir quelques histoires réussies, de migration réussie. Bon, ce qui humanise un petit peu, mais ce que vous dites, par exemple, sur les différences des catégories, sur le fait qu'on a plein de travailleurs temporaires aussi, qui voudraient rester et qui ne peuvent pas, ça, c'est des choses vraiment importantes, parce que c'est eux qu'on côtoie au quotidien.
C'est un supermarché.
Je suis obligée,
voilà.
Évidemment. Il y a une solution, c'est de vous réhabiliter.
Donc,
sur le site web de la FLUS, par le bon soin de notre Antoine, toujours généreux et dévoué, vous allez trouver cette conférence-ci comme les autres conférences. Et on pourra donc s'alimenter, continuer à s'alimenter, à réfléchir sur ces questions-là. Maintenant, je suis obligé de constater que le professeur n'a pas la notion de questions courtes et de réponses.